Le mois de Elul, les jours redoutables. Chers amis, Hachem, Alechem, Tihyou, les Orechem, Tomé, Shanim, Niaim, Yazen, Obechem, Radon, Ayosé, Shanim, Baharet. Nous allons entreprendre une étude, une analyse des textes pour nous préparer à partir du mois de Elul aux grands jours que sont les jours de Rosh Hashanah et de Kippour. Le mois de Elul est une préparation à la Teshuvah d'une part et d'autre part à la réparation, de sorte que nous puissions recevoir les deuxièmes tables, le Chot Shniot que Moshe va descendre, avec lesquels Moshe va descendre et qu'il va remettre en Israël le jour de Kippour. Les Tosafot dans Baba Kamak Pebet Amud Aleph 82a rapporte au nom du Seder Olam que Moshe Rabbeinu est monté trois fois sur le Harsinaï. La première fois, le 6 Sivan, le jour du don de la Torah. Il en redescendit le 17 Tammuz, et là, Am Israël fait le veau d'or, et Moshe Rabbeinu brise l'étape. Il remonte une deuxième fois pour obtenir le pardon de la faute du veau d'or, le 18 Sivan. Et le 29 Av, 40 jours après, Hachem accepte ses prières. Il redescend alors pour tailler les nouvelles tables avec lesquelles il remontera pour la troisième fois le lendemain, le 30 Av. Il y reste à nouveau 40 jours qui se conclut le 10 Tishrei, le jour de Yom Kippour. Il est à noter que à ce moment-là, il n'y a pas de Kippour. Kippour va être instauré après. Hachem lui dit, Salahti kidvarecha, j'ai pardonné ainsi que tu me l'as demandé. Moshe redescend avec les deuxièmes tables en ce jour, qui sera fixé à partir de là comme jour de pardon et de réparation pour toutes les générations à venir. Au sujet des premières tables, il est dit, et ces tables étaient l'ouvrage de Dieu, ve'alohot ma'ase Elohim hema. Via Mirtav, Mirtav Elohim. Les tables elles-mêmes étaient l'œuvre de Dieu. Et les lettres gravées sur les tables étaient aussi alors de caractère divin. Donc la matière elle-même était donnée par Hachem. Et l'écriture aussi par Hachem. Alors que pour les deuxièmes tables, il est dit, Hachem dit à Moshe, Pesol lecha, shene lohot avanim. Il lui dit, taille pour toi. Deux tables de pierre, semblables aux précédentes. Mais katavti al alohot, et j'écrirai sur ces tables. Et tadevarim asherayu al alohot arishonim asher shibarta. J'écrirai les mêmes paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. La Gemara dans Yeruvin, nun dalet al amud alef, rapporte au nom de Rabbi Eliezer. Il est dit sur les tables, gravé sur les tables, Harut al alohot. Si elles n'avaient pas été brisées, jamais Israël n'aurait oublié la Torah. Ce qui est gravé ne disparaît pas et laisse toujours une trace. Donc s'ils n'avaient pas été brisés, alors on aurait appris et jamais oublié. Ce qui peut paraître comme quelque chose de positif, mais aussi comme quelque chose de négatif. Si on n'oublie pas, on n'aura pas envie de répéter. Le Shulchan Aruch rapporte que l'habitude est de se lever tôt le matin pour réciter les supplications depuis le début du mois de Elul jusqu'au jour de Kippour. Ces habitudes-là sont mentionnées dans les Rishonim, dans le Ran et dans d'autres Rishonim. Ça dépend des minagim. Il y en a qui prennent le temps de dire les slihot depuis le Rosh Chodesh Elul. D'autres commencent le 25 Elul. Chacun selon son minag. Cependant, d'après tout le monde, le minag est de sonner le shofar depuis Rosh Chodesh Elul. Le Rama rapporte cela dans le Shulchan Aruch. Il dit que certains ont l'habitude de sonner le shofar tous les matins après la prière de Shachrit. Et là, il y a lieu de se poser la question, de s'interroger. Quelle est la source de ces habitudes-là? D'où viennent ces habitudes? Le Yalkut Shimoni Parashat Kitissa nous dit, les 40 jours où Moshe monte pour la troisième fois pour recevoir les deuxièmes tables, le peuple d'Israël prend sur lui de jeûner et de prier. Le dernier jour, il fixe un jeûne depuis la veille. Le lendemain, il se dirige vers la montagne pour aller à la rencontre de Moshe. Ils sont en pleurs, et Moshe est aussi en pleurs. Leur larmes montent vers Hachem qui leur dit, la miséricorde prend le dessus sur la rigueur. Hachem accepte leur repentance. Et il leur dit, mes enfants, ces pleurs seront pour vous des pleurs de joie. Ce jour sera pour vous un jour de pardon. D'après ce Midrash, les 40 jours qui vont du premier Elul au jour de Kippour sont fixés comme jour de repentance, où il convient de faire teshuvah. On récite alors les Silihot. Mais l'essentiel des Silihot, nous devons savoir que ce sont les 13 attributs de miséricorde, Yud Gimel Midot Arahamim. Cela correspond à la deuxième montée de Moshe, comme le précise le texte dans le Passouk. Je suis monté, je me suis prosterné. Moshe dit, je me suis prosterné devant Hachem, comme la première fois, 40 jours et 40 nuits. Il s'agit de la deuxième montée. Pendant ces jours, Moshe prie pour le pardon d'Israël. C'est Hachem lui-même qui lui dévoile les 13 midot de Rahamim, les 13 attributs de clémence. Le Talmud de Rosh Hashanah, Yud Zayin, dit « Et Hachem passa, vaya avoir Hachem al panav. Hachem passa devant lui. Il passa, avoir, comme si que le Hachem s'est enveloppé d'un talit, comme si qu'il est lui-même un chaliar tzibour. Quand le chaliar tzibour va, se lève pour aller sur, devant la teva pour prier, pour la prière publique, on dit envers l'ifne à teva. Et là, c'est le sens de Hachem avar. Et proclama, vaikra, Rabbi Hanan dit, si le pasouk ne l'avait pas écrit, il aurait été impossible de dire une chose pareille au sujet de Hachem. Ceci nous enseigne, nous dit-il, que Akadosh Baruch Hu s'est drapé d'un talit comme un chaliar tzibour et a montré à Moshe le rituel seder tefila, le rituel de la prière. Il s'agit des 13 midot rahamim, les 13 attributs de miséricorde. Et il lui dit, chaque fois qu'Israël commettront des fautes, qu'ils fassent devant moi ce rituel et je le leur pardonnerai. Il est à souligner ici qu'il n'est pas dit qu'ils lisent le rituel ou qu'ils disent le rituel, qu'ils le fassent. C'est-à-dire qu'en fait, ils doivent non seulement le dire, mais aussi adopter les qualités et les appliquer. Entre eux, évidemment. Le tour dit, rapporte au nom de Perkei de Rabbi Eliezer. Le premier jour d'Elul, Hachem dit à Moshe, monte à ma rencontre sur la montagne. Moshe monte pour recevoir les dernières tables. Alors les Israël sonnèrent du shofar dans le camp et proclamèrent que Moshe monte afin qu'il ne se trompe pas comme la première fois après les idoles. Et Hachem s'est élevé par cette sonnerie comme dit dans le pasouk. Ala Elohim bitroa, Hachem bekol shofar. Hachem, Elohim s'est élevé au son de la teroa. Elohim, c'est l'attribut de rigueur, du jugement. Il s'élève au nom de la teroa, au son de la teroa. La teroa est un son cassé. C'est un son cassé qui marque le din, la justice, la rigueur, la limite. Mais c'est Hachem Bekol Shofar, Yudke Vavke, s'élève au, il s'est élevé au son de la teroa, mais quand il s'assoit sur le tribunal, sur le trône de justice, c'est Hachem. Yudke Vavke, la mida de miséricorde absolue. Au son du shofar qui sous-entend un son continu, ininterrompu, qui souligne, qui symbolise la mida tahesed qui est infinie. C'est pour cela que les sages ont institué de sonner tout le mois de Elul, pour mettre en garde Israël afin qu'il fasse teshuva, comme dit le prophète Amos. Aïtaka, shofar, bahir, ve'aham, lo yahiradu. Le shofar sonnerait-il dans la ville sans que le peuple soit en émoi? Le Rambam, Ilchot Teshuva, Perek Gimel, dit, bien que la sonnerie du shofar, le jour de Rosh Hashanah, soit un décret divin, une mitzvah, on peut y trouver une allusion au un appel au réveil, à la Teshuva. Le Kriyat Melech lit cet enseignement du Rambam avec le verset cité précédemment. Aïtaka, shofar, bahir, ve'aham, lo yahiradu. Le shofar a donc la particularité de réveiller ceux qui somnolent, ceux qui sont endormis. C'est-à-dire que le laisser-aller, l'insouciance, l'inconscience est comparé au sommeil. Alors que le réveil causé par la sonnerie du shofar va faire prendre conscience aux individus d'une réalité qui a été occultée jusqu'à présent. On a mis ça dans l'inconscient, on le repousse. La Gemara dans Brachot, à la page 8, dit, Rabbi Yehuda nous enseigne, Isaharu, Mizaken Shechachar Talmudo, prenez garde à un sage qui a oublié son savoir. Car les tables et les débris des tables sont posés ensemble dans l'arche sainte. Le Hod ou Veshivre, le Hod, Munahim Baron. Le Haron, c'est l'arche sainte. Dans cette arche-là, il y avait les débris des premières tables, d'une part, et aussi les deuxièmes tables. Dans les débris des premières tables, que reste-t-il? Il ne reste que la trace des lettres, puisque le Midrash dit que les lettres se sont envolées. Alors, quand les lettres se sont envolées, ce qui nécessite en fait une grande analyse et une grande méditation. Sur les tables, il était gravé les psukim, les versets étaient gravés. Si les versets étaient gravés, alors comment les lettres sont envolées et que reste-t-il dans les débris? Il doit rester la trace des lettres, la trace. Alors donc il reste les lettres, on peut lire encore. Donc les traces sont encore posées dans les débris, sont présentes dans les débris. Et il reste avec ces tables-là, il reste les nouvelles tables. Il y a les nouvelles tables qui sont posées ensemble. Alors que va-t-il se passer? Le Chacham qui a oublié son étude, le Chacham qui a perdu son savoir, que lui reste-t-il dans sa mémoire, dans son cerveau? Que reste-t-il là-bas? Il lui reste les traces du savoir. De sorte que les deuxièmes tables sont comparées au corps de la Torah que nous possédons. Ainsi, en comparaison des premières, nous ressemblons à ce sage à qui il ne reste que la trace de son savoir. Les premières tables ont été données au son du shofar, comme il est dit dans Shemot, « Kol shofar oler vechazek meod » Le son du shofar allait en s'amplifiant, en redoublant d'intensité. Moshe d'Aber, Moshe parlait vers Elohim Ya'anenu Bekol, et la voix de l'Éternel lui répondait. Cependant, au sujet des paroles, de la voix des paroles, cette voix-là, il est dit, les paroles de l'Éternel les adressa à votre assemblée, d'une voix puissante, sans y rien y rajouter. Nous disent les Mefarshim que le son des paroles était identique, avait toujours la même puissance, alors que celle que le son du shofar allait en s'amplifiant de plus en plus fort. Comme ça, souligne le Ramban sur place, le son du shofar ayant la faculté de réveiller ceux qui sont endormis, ceux à qui il ne reste que la trace de vie. Il a la faculté de redonner la vie à ce qu'il n'y ait plus qu'une trace. C'est le sens de la sonnerie du mois de Elul. Réveiller la trace qui reste dans les premières tables pour pouvoir obtenir les deuxièmes. Le Midrash, chez Shemot Rabba, rapporte que Moshe demanda à Hachem, ils ont fauté, Israël a fauté, et moi aussi j'ai fauté. J'ai fauté en brisant les tables. Si tu leur pardonnes, fais-le pour moi aussi. Et moi aussi tu dois me pardonner. Mais si tu ne leur pardonnes pas, efface-moi de ton livre. Rav Hama dit, Il ne bougea de là que lorsque Hachem élimina leur faute. Moshe lui dit, ils avaient un défenseur, mais pour moi, qui va intervenir? Moshe regretta d'avoir brisé les tables. Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, les premières tables ne contenaient que les 10 paroles uniquement. Mais dans les deuxièmes, je donnerai, il y aura les halachot, les midrashim, les enseignements, les agadot, comme il est dit dans le pasouk, dans Yob. Dans Yob, il est dit un pasouk. Il te révélerait les mystères de la sagesse, car la vérité a de nombreux aspects. Tous les aspects de la Torah ont été gravés entre les paroles, entre les 10 commandements. Il y avait un espace où toute la Torah orale était gravée. Et de plus, tu es informé que je t'ai pardonné, comme il est dit, et tu reconnaîtras que Dieu est loin de te compter de tenir compte de tes fautes. De même, dans le Midrash, il est dit, comme tu as souffert, je te donne dans les deuxièmes tables, halachot, midrashot, agadot, alors que dans les premières, il n'y avait que les 10 paroles. Donc deux fois, ceci est mentionné, que les deuxièmes tables ont un avantage sur les premières. La Gemara dans Yerushalmi Shkalim nous enseigne, Hanania, le fils du frère de Rabbi Yoshua, dit, entre chacune des paroles, il était écrit les déductions et les lettres de la Torah. Le verset dit dans le cantique, Yadav Gelile Zahav, ses mains sont comme des cylindres d'or, incrustés de Tarchish. Memulaim et Tarchish. Rech Lakish dit, quand Rabbi Yohanan arrivait à ce verset, il disait l'enseignement de Hanania est juste. Comme dans la mer, entre chaque vague vient une petite. Ainsi, entre chaque parole viennent les déductions des lettres de la Torah que Rabbi Akiva dévoilera longtemps après. Le même enseignement est repris dans le Midrash Hirachiri, qui le complète en concluant le Talmud et le Torah de Kohanim. Talmud et Torah de Kohanim aussi étaient inscrits dans les tables. La difficulté réside dans le fait que ces deux derniers renseignements concernent les premières tables et non pas les secondes. Ainsi, il y aurait une contradiction entre le Midrash Rabbah et le Talmud Shkalim, qui est repris par le Zohar sur Ruth. On pourrait résoudre cette contradiction en suggérant qu'il y a deux dimensions à la Torah orale. Celle des premières tables, où on parle des déductions et des lettres. Il concerne le niveau de subtilité élevé, d'une clarté parfaite, où il n'y a pas de place pour le doute, à l'obscurité des difficultés, et aux difficultés, aux interrogations, aux doutes, à l'incompréhension. C'est la Torah orale du Mashiach, l'arbre de vie. Alors que celle des deuxièmes tables est appelée par les kabbalistes l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Sadaatovara. L'étude du Talmud tel que nous la pratiquons consiste à éliminer les scories pour faire apparaître la lumière, celle de la halakha claire et applicable. Le verset dit dans les Lamentations, « Bam hachakim oshivani m'a relégué dans des lieux ténébreux ». Les sages disent qu'il s'agit du Talmud Babli, qui est plein de difficultés et nécessite d'énormes efforts pour faire jaillir la lumière. Cette lumière qui nous guide dans l'obscurité des différents exils. La sonnerie du shofar doit faire revivre cette trace. Doit faire revivre la clarté laissée dans les premières tables. Celle de la connaissance qui cache et qui chasse l'obscurité. Les deux habitudes citées plus haut sont donc pour l'une reliées à la deuxième montée de Moshe pour obtenir le pardon. Hachem lui dévoile alors le secret des 13 attributs de clémence. C'est la première étape, celle des slichot. La deuxième habitude est la réparation de la faute, d'obtenir des nouvelles tables avec une dimension nouvelle, celle de la nouvelle Torah, reliée aux premières tables par la trace qui nous en reste. C'est la sonnerie du shofar qui nous amène à Yom Kippour, jour où l'on reçoit les tables et la Torah. C'est la réparation. Il n'existe pas de situation d'échec ou de non-retour. Hachem, dans son immense miséricorde, accorde à nouveau la vie. Ces jours sont redoutables par le fait que le Créateur, Yitzbarach Shemo, se dévoile et dévoile à la création son infinie puissance. Comment ? En prodiguant la vie. Il prodigue la vie à toutes ses créatures. En nous inscrivant à partir de là dans le livre de la vie, Il n'y a pas de situation de non-retour, il n'y a pas de situation d'échec, il y a toujours un avancement. Nous avançons vers la rédemption, vers la réparation des mondes. Et cela est possible plus nous nous investissons dans la compréhension et plus la lumière jaillit de plus en plus forte, de plus en plus avec puissance, pour nous illuminer, pour nous guider dans le chemin que nous devons emprunter. Donc nous allons, à partir de Rosh Chodesh, faire les Slichot. Nous allons, à partir de Rosh Chodesh, sonner du shofar. Donc il convient de comprendre que la sonnerie du shofar a une incidence et a un derrière de nous relier, de relier les premières, les deuxièmes tables que nous allons recevoir et réveiller les premières. Faire en sorte que les deuxièmes tables que nous recevons sont liées aux premières. Les premières sont aussi posées dans l'arche. Donc il y a une union, une communion entre les deux tables. Et d'autre part, nous réparer, obtenir le pardon sur le passé. Il raconte que Hachem nous octroie son pardon et nous inscrive tous dans le livre de la vie, dans le livre, que cette année soit l'année où véritablement la lumière jaillira, que la galoute, les ténèbres, soient illuminées, cessent et soient illuminées par la venue de Goel Tzedek Bimera Bimenu Baruch Adonai Leolam.